Dans cette série de podcasts inédits et tirés de la première biographie du maestro, intitulée Ennio Morricone ou le poison d'une œuvre, parue aux éditions Marie-Bée et signée Philippe Grégoire, nous proposons une suite de focus par périodes successives sur la vie et l'œuvre d'Ennio Morricone. Dans ce podcast numéro 7, intitulé « La tentation de la musique absolue », nous revenons volontiers sur la vie du compositeur et sa tentation de s'adonner à sa passion pour l'écriture classique. La renommée et la virtuosité sans égale du maestro dans la composition pour l'écran ne lui fit pas perdre de vue les nombreuses idées musicales qui jaillissaient de temps à autre et qu'il conservait précieusement. S'il était conscient que son style musical, très éclectique, convenait aux besoins du cinéma, il n'en souhaitait pas moins, depuis son enfance, s'orienter vers une musique plus classique, intimiste et libre, en s'affranchissant des contraintes imposées par le genre cinématographique et surtout mieux à même de correspondre à des aspirations profondes nourries toutes ces années, sans pouvoir être en mesure de leur accorder tout le temps qu'ils souhaitaient. Ainsi, certains de ses amis cinéastes, comme Giuseppe Patroni Griffi ou plus récemment Giuseppe Tornatore, s'interrogèrent sur son emploi du temps à la faveur de la musique de film et donc au détriment de ses compositions libres. C'est moi qui ai voulu donner mes heures de plein gré et j'estime que je n'ai pas du tout perdu mon temps. J'ai acquis ainsi une grande expérience dont je suis content sur le plan musical, nous relate la biographie écrite par Anne et Jean Lassa aux éditions Favre et parue en 1989. Pourtant, comme nous l'avons déjà précisé, le maestro ne renonce à rien. Ni à rechercher l'équilibre économique grâce au cachet issu de son travail pour le cinéma, ni à la composition libre qui ne cessa de l'habiter. Dès son plus jeune âge, il apprit à mener de front plusieurs activités. Il se frotta à la musique de variété et au jazz, en accompagnant puis remplaçant son père dans les orchestres de music-hall. En même temps, il étudia un instrument, la trompette, la musique, puis la composition classique à Sainte-Cécile. Les dernières années, il fut l'élève assidu de Goffredo Petrazzi. Celui-ci marqua toute une génération de musiciens et compositeurs de renom, Boris Porena, Domenico Guarcero, Aldo Clementi, tous trois du même âge, Ennio Morricone et de Marcello Pani ou encore de Peter Maxell Davis de la génération suivante. Tous s'attendaient à ce qu'il suive une voie toute tracée vers la création et la direction d'orchestre avant même son dernier diplôme en 1954. Il découvrit les arrangements pour la radio, la télévision et le disque qu'il pratiqua d'une façon quasi industrielle et au terme de cette même année, il avait déjà composé 12 pièces classiques. Il poursuivit les arrangements en faisant preuve d'une inventivité inédite et en repoussant même les limites. Puis il bifurqua vers la musique de film que très vite il sublima au point d'ouvrir à cette discipline de nouvelles perspectives. Morricone fut toujours là où on ne l'attendait pas. Il en arriva à être adulé par un public massif de néophytes et toisé par un autre, plus restreint de virtuoses dont il faisait partie et qui ignorait son œuvre classique. Bien sûr, c'est un peu déplaisant que les gens me connaissent si peu, qu'ils ignorent toute une partie de mon travail de création plus personnelle, plus intimiste et en rapport avec une autre musique de film, déclarait-il sur un reportage diffusé par Antenne 2 le 18 octobre 2002. Et les débuts dans le domaine classique furent prometteurs. Après une sonate pour pianoforte, il poursuivit par un concerto pour orchestre en 1957. Il présenta ce dernier 3 ans plus tard au Théâtre de la Fenice à Venise. En 1962, il organisa au Théâtre Ateneo la représentation de 12 variazioni pour hautbois d'amour, violoncelle et piano qu'il avait achevé en 1956. L'année suivante, il produisit un concerto pour orchestre et un quattro pezzi pour guitare. Trois œuvres furent retenues en finale du concours de la Société internationale de musique contemporaine. Sesteto pour flûte, hautbois, basson, violon, alto et violoncelle, composé en 1955. Distanze pour violon, violoncelle et piano. Et enfin, musique pour 11 violons, achevée tous deux en 1958. Ennio Morricone désignait par l'expression musique absolue celle qu'il composait sans autre objectif premier que de l'écrire. Aussi pouvait-il laisser libre cours à son imagination et sa créativité, alliée à une expérience de la partition quasiment sans équivalent, et ceci dans de multiples contextes. Nul besoin de s'adapter à un environnement contraignant et souvent changeant, une façon en quelque sorte de renouer avec la pleine liberté du créateur. Pendant toutes ces années au service du disque et du cinéma, Morricone ne cessa de composer des pièces classiques et d'alterner, passant de l'une à l'autre, d'un travail de commande à une création pure, presque de façon continue. Et au maestro de pointer cette difficulté. Cela n'a pas été facile. Il m'a fallu quelque temps pour me défaire de ce poison. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de phase de désintoxication, déclarait-il lors d'une interview donnée à Arte le 20 mai 2007, propos recueillis par Teresa Piachacon. Ce qui vous donne d'ailleurs l'explication du titre de la biographie mise en exergue en introduction, Ennio Morricone ou le poison d'une œuvre, puisqu'effectivement c'est de cette citation que le titre a été créé. Ou plutôt, c'est à partir de cette citation. que le titre a été mis en place. Un poison, la musique de film, tellement ce fut âpre d'intégrer à chaque composition le système mis en place par le cinéaste auquel il fallait répondre par une bande son originale et adéquate. Ennio Morricone divisait son œuvre en deux parties. La musique appliquée, commandée par des réalisateurs de cinéma pour leurs films, et la musique absolue, écrite pour elle-même. À partir des années 90, Morricone intensifia ses créations classiques tout en acceptant de façon sélective des commandes émanant du cinéma, et créées alternativement pour l'une et l'autre ne relevaient pas d'une simple formalité pour le maestro. La musique absolue. L'expression émanait du maestro qui prenait un vrai plaisir à l'évoquer lorsque les entretiens avec les journalistes ou autres prenaient une tournure qui lui était agréable. Il désignait par là la possibilité pour le compositeur de s'adonner à l'écriture musicale sans contrainte autre que celle qu'il se fixait lui-même. Bien sûr, Morricone intégrait à sa définition les attentes du public pour un genre donné. Celles-ci diffèrent selon qu'il s'agisse, par exemple, d'une musique de chambre ou d'un concerto. Mis à part ce qu'il nommait par conditionnement, le musicien restait libre de sa partition et pouvait profiter de l'immensité du champ de la composition. Et pour reprendre une définition de Jean-Paul Sartre, la liberté est ce petit mouvement qui fait qu'on ne restitue pas la totalité de son conditionnement. De fait, le créateur de musique dispose-t-il de la faculté d'exister réellement dans son écriture absolue, d'exprimer son moi et faire preuve, sinon de génie, au moins d'inventivité pour repousser les limites du genre dans lequel il inscrit sa création. C'est dire enfin si nous sommes confrontés à un exercice qui se distingue totalement de la création musicale pour le compte d'autrui et notamment pour le cinéma. Une séparation stricte que conteste d'ailleurs Stéphane Lerouge, spécialiste de la musique à l'image. La musique a toujours été écrite sur commande. Ce n'est pas parce qu'on écrit une musique sur commande qu'elle est inférieure ou pas absolue. Le maestro ne pouvait en effet pas l'ignorer. Bon nombre de grandes partitions classiques, telles la messe de Requiem en ré mineur de Mozart, existèrent parce qu'une commande arriva. Et celle-ci entraînait forcément toute une série de contraintes à respecter afin que la partition livrée corresponde au désir du donneur d'ordre. Serait vain de faire ici l'exégèse de l'œuvre expérimentale et plus académique de Morricone. Il composa sans relâche de 1946 jusqu'à la fin de sa vie, avec quelques brefs entr'actes, notamment de 1948 à 1951, de 1959 à 1966 et de 1975 à 1977. Des trios, des sextuors, morceaux pour six voix ou instruments, des cantates, des sonates, des concertos, des variations, des requiem, des cadenzas, des quatuors, des messes, des ballets, etc.,
etc., etc. La production classique du maestro se révèle prodigieuse tant par sa quantité, plus de 100 pièces au total, que sa qualité compositionnelle. Elle constitue la partie immergée de l'œuvre morriconienne, le jardin secret du maestro dans lequel il conjuguait son sens de la perfection à celui d'une sophistication toujours plus complexe sans que pour autant le morceau soit inabordable à l'auditeur. On regrette bien sûr que cette partie du travail de Morricone soit si peu accessible. Quelques disques et CD furent édités et mis sur le marché, même s'ils sont pour l'essentiel introuvables de nos jours. Aux journalistes Bruno Lesprit du journal Le Monde, il répondait en 2006 « Ma dernière composition, Les Voix du silence, une œuvre inspirée par le 11 septembre, en collaboration avec l'ethnomusicologue Francesco De Melis, a été dirigé par Riccardo Muti, puis Chung, et acclamé à Vérone. Le disque s'est vendu à 40 000 exemplaires en Italie, ce qui est considérable car le succès de ce genre de musique reste une exception. Le public n'y est pas habitué. L'industrie lui livre une musique facile, répétitive, qui s'éloigne de la mienne. Et puis des compositeurs travaillent aujourd'hui avec des synthétiseurs. Cette concurrence est injuste et déloyale car leur musique coûte peu. Gageons que le nom de Morricone incite les mélomanes et les curieux à se porter sur son œuvre absolue, notamment grâce à de jeunes musiciens qui l'aimeront et surtout sauront la transmettre. La tentation de la musique absolue ne se limita pas à ses nombreuses compositions libres, car elle s'immisciait volontiers dans la musique de film. Ainsi se mesurait-elle davantage dans la volonté du maestro de s'émanciper de toutes barrières et contraintes que dans le genre musical développé. Certaines partitions créées pour le cinéma furent par exemple reprises par Morricone et transformées à sa guise. Requiem pour Un Destino, créé pour un homme à moitié, fut modifié en ballet. Il en alla de même avec Tre pezzi brevi, conçu pour Buone Notizie ou Totem Secundo, imaginé pour un autre film d'Elio Petri. Ensuite, de nombreuses partitions pour l'écran correspondaient à des pièces classiques. L'ensemble des thèmes de La Terre Rouge de Mikhaïl Kalatozov, datant de 1969, s'apparentait à une suite symphonique. Sans forcément se ranger dans ce dernier genre, de nombreux autres thèmes furent influencés par une écriture rigoureusement classique. En ce sens, que dire des partitions d'Il était une fois en Amérique ou de Mission, pour ne s'en tenir qu'à ces deux exemples. En outre, le maestro se livra à de amples improvisations pour le compte de cinéastes demandeurs de ce type de musique. Il fit appel au gruppo di Improvisazione Nueva Consonanza pour participer à certaines bandes-sons, notamment celle d'Un coin là, tranquille à la campagne de Petri, puis celle de Gliocchi Freddi della Pora, Colises of Fear, d'Enzo Castellari en 1971, et de la bande originale des Se per caso una mattina de Vittorio Sindoni l'année suivante. Enfin, de nombreux autres cinéastes laissèrent au maestro toute la latitude possible pour qu'il s'exprimât comme il le souhaitait. Interviewé en 1981 à l'occasion de l'émission L'événement musique sur France Culture, il déclara « Si je mesure et que je contrôle les musiques que je fais, c'est parce que j'ai des exigences de musicien tout simplement. Un principe fondamental depuis que je réfléchis à ce qu'est la musique de cinéma, c'est que celle-ci ne peut bien s'accorder à l'œuvre cinématographique que dans la mesure où elle a une existence propre et indépendante d'elle. Ainsi, pour le maestro, importait plus que tout de scinder le film et sa musique pour que cette dernière puisse voler de ses propres ailes en s'émancipant des éléments narratifs et scéniques pour lesquels elle avait été créée. Et en cela, il touchait du doigt son idéal de musique absolue, car exemple de toutes contraintes et limites. À 68 ans, il devient académicien de Santa Cecilia. Cela compta beaucoup pour lui d'être reçu par ses pairs au sein de cette vénérable institution qui l'avait formée jadis. Il participait volontiers à l'ensemble des travaux que menait l'Académie et assistait aux concerts qui, de temps à autre, y étaient donnés. Pour fêter son 90e anniversaire, il dirigea l'orchestre et le chœur de l'Académie nationale di Santa Cecilia le 27 septembre 2018 devant une salle bondée. Il y fit entendre des musiques appliquées et absolues, comme pour les réconcilier, à la plus grande joie d'une assistance éminemment reconnaissante de son génie. Ainsi s'achève le 7e volet des podcasts dédiés à la vie et l'œuvre d'Ennio Morricone et tiré de la biographie publiée aux éditions Marie-Bée sous le titre « Ennio Morricone ou le poison d'une œuvre » signé Philippe Grégoire. Les différents extraits musicaux que vous avez pu entendre proviennent de l'œuvre pour l'écran de Morricone et non pas, il est vrai, des morceaux de musique absolue. Le premier s'intitule « Bestiality » et vous pouvez l'entendre dans le film « The Thing » de Carpenter. Je crois que c'était 1979, si ma mémoire ne me trahit pas. Et il s'agit d'un morceau qui provient directement des recherches expérimentales du maestro, selon lui-même. C'est pour cela qu'il figure sur ce podcast. Le second est un morceau intitulé comme le film qu'il a illustré, c'est H2S. C'est un film de Robert Faenza, je m'en souviens bien, c'est un excellent film. La bande-son l'est tout autant. Enfin, le troisième extrait provient d'Il était une fois en Amérique, et c'est bien sûr le thème de Déborah que vous avez certainement reconnu. Mille merci à vous d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Pour de plus amples informations, je vous renvoie au site morricone-biographie.fr. Outre les informations relatives à ce podcast, vous retrouverez des playlists qui rassemblent l'intégralité des morceaux cités. Si vous l'appréciez, je vous engage à le liker, cela nous permettra de grimper dans les sondages numériques, ce qui nous ravira au plus haut point. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro qui va traiter des récompenses tardives du maestro.